fait les expositions ?
On a travaillé pendant plusieurs mois sur l'exposition, mais c'était pas seulement moi, il y avait toutes les personnes de l'équipe du CREDAC qui m'aidaient à réfléchir, à choisir l'emplacement des œuvres, le bon matériel et les dimensions aussi. Donc c'est vraiment un travail de plusieurs personnes.
Est-ce que avant d'arriver dans un musée, vous faites vos œuvres ou vous les faites après ?
Alors là, toutes les œuvres qui sont au CREDAC ont été faites spécialement pour ce lieu. Donc j'ai vraiment réfléchi en fonction de la pièce qui m'avait été attribuée. Donc il y a beaucoup d'artistes effectivement qui font les œuvres avant et qui ensuite choisissent l'exposition dans laquelle chaque œuvre va aller. Mais moi j'aime bien créer spécialement pour un lieu en particulier et l'avoir en tête quand je travaille.
Est-ce que vous avez déjà visité le musée avant de poser l'exposition ?
Oui, la première fois que je suis venue au CREDAC, il y avait une exposition de Simon Boudvin que vous avez dû voir avec une voiture.
Quand vous avez commencé, vous avez quel âge ? Quand tu arrives au CREDAC, tu avais quel âge ?
Alors, en ce moment, j'ai 27 ans et c'est aussi l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler au CREDAC. Mais l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire des dessins en noir et rouge qui racontent des histoires, c'était 15 ans. J'étais au collège à l'époque.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous avez déjà pensé à faire comme Simon Boudvin ?
Alors, je pense que mes parents ne m'auraient pas laissé démonter leur voiture, donc c'était pas une possibilité.
Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui veulent vous recopier ?
Alors, j'avais entendu une fois un artiste qui disait que la meilleure chose qu'on pouvait faire contre les gens qui veulent nous recopier, c'était d'être plus inventif qu'eux et de faire un travail meilleur, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. Donc voilà la réponse.
Quand vous êtes entrée à l'école des arts, vous avez eu quel âge ?
Quand j'ai commencé à faire des études d'art, j'avais 21 ans. Et avant ça, j'ai fait des études de publicité. Parce que je ne voulais pas du tout être artiste à l'époque. Je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Donc ça ne m'a pas traversé l'esprit.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous commencez toute seule ou vous faisiez avec des amis ?
Quand j'étais au collège et que je faisais mes petits dessins en noir et rouge pour prendre des notes de cours, j'étais toute seule. J'avais pas d'amis qui faisaient ça aussi.
Est-ce que quand vous étiez en CE1, est-ce que vous pensez à quoi faire quand vous serez grande ?
Donc, quand j'étais en CE1, je savais que j'aimais déjà dessiner, mais je pensais pas que c'était un vrai métier. Je croyais que c'était plus un rêve, et j'imaginais pas du tout qu'on pouvait vivre avec ces dessins. Donc, je me disais pas que plus tard, ce serait mon métier.
Quand vous étiez au collège, est-ce que vous étiez déjà puni ?
Alors, j'étais pas punie par l'école, mais j'étais punie par mes parents, parfois.
Est-ce que vous avez aimé participer à cette exposition ?
Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que l'équipe du CREDAC est très accueillante et qu'elle a vraiment beaucoup respecté mes idées.
Quand vous y étiez petite, qu'est-ce qui vous a marqué pour faire beaucoup de dessins ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de vos ancêtres qui aimaient faire ce genre de choses ? Ou alors, ça vous a passionné et vous aimez vraiment bien dessiner ?
Quand j'étais vraiment toute petite, je pensais que l'art, c'était seulement la peinture et que tout ce qui était écriture, c'était autre chose. Ça allait pas dans les expositions. Du coup, j'aurais pas du tout imaginé à l'époque que le travail que je fais maintenant pouvait avoir sa place dans le milieu de l'art.
La radio des écoles d'Ivry.
Thank you. tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui vous dira tout à l'heure et qui vous prépare un cocktail musical du tonnerre. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Montal, qui vient de publier un roman, Leur Chamade, aux éditions Séguier, et c'est dans la collection L'Indéfini. Jean-Pierre Montal, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle, je pense, nous sommes le 22 juin, tant pis pour le podcast, nous sommes le 22 juin. Hier, Françoise Sagan aurait eu 88 ans. Elle était née un 21 juin, comme Jean-Paul Sartre. Et je pense que Leur Chamade, bon, c'est un roman qui est très personnel, mais qui quand même fait référence à ce livre de Françoise Sagan et à ce film d'Alain Cavalier avec Catherine Deneuve. Est-ce que vous êtes... C'est plutôt vos parents qui étaient de la génération Sagan, j'imagine.
Oui.
Mais pourquoi cette fascination un petit peu pour l'univers de Françoise Sagan ?
Alors tout part du film en fait, de façon assez étrange, avant le roman de Sagan. Donc ce roman, La Chamade, a été adapté par Alain Cavalier,
oui,
qui en a fait un film en 1968, la date a son importance. Et donc ce film avec Michel Piccoli, Catherine Deneuve, Roger Van Hool, et Irène Tunk, qui était la femme à l'époque d'Alain Cavalier. Ce film adapte très fidèlement le roman de Sagan. J'ai vu ce film. J'ai vu ce film la première fois, je devais avoir 12 ans, 13 ans peut-être. Donc pour me situer, je suis né en 71, donc au début des années 80. Et je ne saurais dire pourquoi, en tout cas je l'ai compris plus tard, mais ce film m'a immédiatement fasciné. Alors pour plein de raisons. D'abord, c'est un monde, hein, c'est une élégance, tout le monde est en Saint-Laurent, enfin, c'était un monde que je viens pas de ce milieu-là, donc c'est un monde qui m'a un peu intrigué. Et puis ensuite, il y avait une façon de parler, des répliques qui m'ont beaucoup marqué. Et après, je l'ai revu, j'y ai souvent pensé, et je l'ai revu plus tard, alors là, plutôt vers 16-17 ans, et j'ai été complètement fasciné cette fois par le personnage de Michel Piccoli, donc qui est le mari, parce qu'on est dans un triangle amoureux. En gros, c'est pas le mari, hein, c'est disons le légitime, on va dire. Puisque qu'est-ce que c'est que la chamade ? C'est un triangle, c'est une jeune femme très belle, assez insouciante, qui recherche avant tout le bonheur, un personnage extrêmement saganien, et qui est joué par Catherine Deneuve. Elle vit avec un homme très riche, qui l'entretient, qui lui garantit une vie très agréable, qui est joué par Piccoli. Et puis un jour, elle croise la route d'un jeune homme qui a beaucoup moins d'argent, et qui est joué par Roger Van Hool, et qui elle va tomber amoureuse de lui, elle va partir avec lui. Mais tout ce que je viens de dire est finalement un point de départ, parce que ce qui est intéressant dans le livre et le film, c'est de voir comment cette femme va réagir face à cette opportunité de bonheur, et est-ce que c'est vraiment un bonheur ? Est-ce qu'on doit suivre ses passions ? Enfin, ça pose ces grandes questions-là. Jusqu'où la passion peut-elle être durable ? Qu'est-ce que le sentiment de sécurité ? Doit-on tout jouer sur un coup de dé ? Enfin, c'est ce que pose un peu comme question la chamade. Et ce qui m'a fasciné, c'était le personnage de Piccoli dans cette deuxième vision du film. Parce que Michel Piccoli, au fond, ne se bat pas pour garder Catherine Deneuve, et lui dit même au contraire, allez-y, parce que il ne vous aime pas de la bonne façon.
Oui.
Moi, je vous aime comme vous devez être aimé. Donc, allez-y, vous reviendrez. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Elle va revenir. Et enfin, je l'ai vue une troisième fois, légèrement plus tard, vers 22-23 ans. Et j'ai compris quelle était la trouvaille géniale de Sagan. C'était le personnage de Lucie, qui est joué par donc Deneuve. Et c'est un personnage fantastique parce que elle ne va jamais se mentir. Elle va comprendre que la passion n'est pas forcément ce qu'elle recherche. Elle va presque accepter une forme de médiocrité chez elle. Et c'est un personnage complètement fascinant qui est épris de liberté, et tellement épris de liberté qu'elle serait capable d'y renoncer.
Alors bon, c'est vrai, la chamade, c'est aussi un roulement de tambour. Enfin, dans l'étymologie de la chamade, si on peut dire, c'est le roulement de tambour pour signifier une défaite. C'est-à-dire qu'on... Voilà, il y a une trêve, je dirais pas qu'on baisse les bras, mais enfin, il y a une défaite, quelque part. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous citez cette citation de Françoise Sagan, « Subir son cœur avec un mélange d'ironie et de désespoir ».
Oui.
Une sorte de... voilà, il y a la vie, il y a une défaite, mais il y a aussi des victoires, et il y a aussi des façons de contourner ces défaites. Et dans votre roman, Jean-Pierre Montal, Leur Chamade, j'ai l'impression que c'est un roman miroir, c'est-à-dire que il y a Il y a plusieurs personnages, donc on part du film. Il y a Edwige, donc la personnage principal, qui a une histoire d'amour d'ailleurs avec Daniel Gisbag, qui est un architecte. Et puis il y a les personnages principaux, puis il y a des personnages secondaires, et puis il y a aussi les parents. Donc en fait, ça commence par une sorte d'inventaire, de bénéfice d'inventaire. Donc Edwige d'abord, elle assiste à une inauguration, et puis après il y a la mort de sa mère, puisque ça se passe en 2022. Ce que j'ai été très surprise d'ailleurs, parce que finalement les dates, je parle de miroir, mais on est un peu perdu dans les dates.
Oui, alors c'est une volonté.
Hein. Ah voilà.
Oui, c'est une volonté. Je voulais que, au fur et à mesure, avec l'avancée du livre, on se perde dans les époques, et puis on se retrouve quand même. J'ai pas pour volonté de perdre le lecteur ou de lui faire passer un sale moment, mais disons que voilà, je voulais qu'à un moment, le temps se floute et qu'on passe d'une époque à l'autre, d'une œuvre à l'autre aussi, parce que c'est une façon de mettre en miroir la vie de mes personnages, donc de fiction,
oui.
Plus la vie du tournage de La Chamade, plus aussi Françoise Sagan qui arrive sur le tournage et qui parle de son livre. Voilà, les choses s'imbriquent comme ça. Pour moi, c'est assez important ce genre de construction. C'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très longtemps avec une lectrice et qui me disait pourquoi vous n'écrivez pas plus simplement voilà une histoire qui va d'un point A à un point B. Et c'est vrai que moi j'aime bien utiliser tout ce que permet le roman et la littérature. J'aimerais faire à la fin qu'on aime ou pas, mais qu'on se dise ce roman est un roman. Vraiment,
c'est un roman.
C'est pas un scénario de film, c'est pas quelque chose qui s'adaptera et ça ne peut appartenir quelque part qu'au genre du roman. Pour moi je veux que ce soit extrêmement romanesque, et ce que permet la littérature, c'est aussi ce flou. Ce mélange des époques, regardez quand même de grands cinéastes ont tenté d'adapter Proust, c'est très dur ce passage du temps. Raoul Ruiz a fait des floutés dans Le Temps Retrouvé. On a envie de lui dire ce flouté est bien joli, mais enfin c'est pas Proust, c'est pas ça. Donc je pense que la littérature a un pouvoir très particulier qui peut s'exprimer de façon très particulière, et selon moi particulièrement sur la question du temps qui passe, du temps qui se mélange, des réminiscences.
Oui, parce que là, franchement, tout d'un coup, je regarde les dates. J'y suis pas du tout. Moi, je voyais ça très loin. Je voyais ça dans ces années-là, parce qu'on parle de Sagan, on parle de La Chamade. Et donc, Edwige est née finalement de ses parents, se sont rencontrés.
Sur le tournage de La Chamade.
Sur le tournage de La Chamade. Et donc, au moment de la mort de sa mère, elle portait une robe d'Yves Saint-Laurent. Ouais. Alors là, j'ai pensé au conte de fées. La robe d'Yves Saint-Laurent, ça m'a fait penser au conte de fées, parce que c'est une sorte d'objet transitionnel qui nous fait voyager dans le temps.
Complètement. Oui, c'était tout à fait la volonté. Il faut savoir que c'est Saint-Laurent donc, qui dessine toutes les robes de Catherine Deneuve pour La Chamade, comme il l'avait fait pour Belle de Jour, par exemple, un peu avant. Et puis, il y a une robe très particulière, qui est une robe assez simple, mais avec un motif un peu écossais, comme un kilt, si vous voulez, très géométrique, qui est une robe qu'elle porte deux, trois fois, qui est une robe très, très belle. Et voilà, c'est ça. Pour moi, c'était l'objet traditionnel, le lien entre les générations. Aussi l'élégance de la mère, qu'elle pouvait, une façon de voir l'élégance, disons, et qu'elle avait essayé de transmettre à sa fille avec plus ou moins de réussite. Et puis aussi cette robe qu'elle a prêtée parfois à sa fille, et cette robe qui a marqué aussi des moments très spéciaux de la vie de la fille, comme elle a pu marquer des moments de la vie de la mère. Donc c'était vraiment, vraiment cette volonté de dire, voilà, l'objet passe par là. Et comme le roman parle beaucoup d'architecture, je pense qu'on en reparlera.
Oui.
Pour moi, il y a quand même un parallèle entre les grands couturiers, enfin en tout cas entre le vêtement et l'architecture. C'est, enfin quand même, on habite ou pas un vêtement, on habite ou pas un bâtiment. Voilà, il y a un rapport comme ça que je trouve à la fois très pratique et sensuel qui, pour moi, fait un parallèle entre les deux.
Ben oui, moi j'ai pensé à la pantoufle de verre. Et puis le dressing. Alors c'est vrai que l'espace est très important pour vous. Il y a plusieurs espaces. Il y a l'espace aussi du décor de cinéma. Là, je pense à une nouvelle 25 bis rue Génère, où vous avez une fascination pour ces vrais faux décors, pour ces, voilà, ces façades. On passe de l'autre côté du miroir. Alors le dressing, voilà, et ça j'ai bien aimé. Le dressing, c'est un lieu vraiment qui résume toute la vie de cette femme. Et c'est vrai que quand on a perdu quelqu'un, qu'est-ce qui reste ? Le dressing. Oui. Vous dites, ces quelques mètres carrés en disaient plus long sur la vie et le caractère de la défunte que tous les éloges funèbres. Possède-t-on tous une pièce quelque part, un palais ou un réduit, quatre murs qui renferment et figent ce que fut le cœur de notre existence ? Edwige le pensait, elle espérait même, car c'était son métier en quelque sorte. Ça c'est... Un autre petit... Parce que dans votre roman, il y a il y a plusieurs, comment dire, il y a des dialogues entre différents espaces. Et ce dressing, c'est un micro-espace. C'est
oui, vraiment, tout à fait.
C'est comme une chambre. Je pense à la chambre de parole. C'est comme une chambre. On ouvre une chambre, c'est hop, tout d'un coup, la vie de cette femme surgit.
Oui. Et puis vous avez raison. Je pense que effectivement, il y a le. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de nous? Alors, il y a des gens qui ont une œuvre, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui ont fait des bâtiments. Il y a des gens. Mais d'une façon plus large, je crois que le dressing dit quelque chose. C'est pas une. On n'est pas du tout en train de parler d'élégance absolue,
non,
du tout. On est en train de parler de... Là, il se trouve qu'il y a une robe Saint-Laurent, et en plus, elle est arrivée là un peu par le truchement du hasard à cause du tournage du film.
Oui, c'est un cadeau du père.
C'est un cadeau du père, voilà, bon.
De l'héroïne à sa mère, c'est un cadeau qui symbolise leur amour.
Voilà, exactement. Donc, mais pour moi, les lieux... En gros, si tous mes livres, les quatre romans, le recueil de nouvelles, même l'essai sur Maurice Ronet... Pour moi, le guide, le fil rouge dans tous ces ouvrages, c'est l'esprit des lieux. C'est-à-dire que les lieux en disent tout autant que n'importe quelle déclaration d'intention ou analyse psychologique. Les lieux où vous êtes passé, que vous avez habité, ou les lieux que vous avez simplement aimé. Voilà. Alors là, évidemment, ça culmine dans ce roman qui, pour moi, était l'occasion de parler d'énormément de lieux différents, mais de lieux très intimes. Le dressing ou le bureau du père.
Oui,
le père
la mezzanine.
Voilà, la mezzanine. Le père a conçu un bureau très spécifique. C'est un architecte raté. Il a fait un peu fortune, enfin fortune modérément, dans l'immobilier de bureau, mais il aurait rêvé d'être architecte. Donc il a placé cette passion dans ce bureau. Et dans ce bureau, il en a fait, et ce que je dis à un moment dans le livre, il en a fait en fait un lieu pour lui, c'est le lieu parfait, le lieu où il voulait être. Mais finalement, quand on rentre dans ce bureau, il y a un personnage à un moment qui dit, on avait l'impression de rentrer dans le crâne de quelqu'un, de vraiment rentrer dans la tête de quelqu'un et de sentir la volonté d'isolement, la volonté de discrétion, la volonté d'isolement, oui, tout simplement, qui régnait dans ce lieu. Et donc, je pense que moi, par exemple, ce serait une de mes plus grandes joies de pouvoir... concevoir un lieu. J'en ai pas le talent, mais ce serait vraiment...
Ah, ben ça, vous en construisez par l'écriture.
Oui,
est-ce qu'un livre,
c'est moins difficile.
Est-ce qu'un roman, c'est comme une maison?
Pour
la construction.
Oui, moi je trouve qu'il y a un grand parallèle entre la littérature et l'architecture. Alors, toute proportion gardée, parce que j'admire énormément les architectes, et puis c'est une grande responsabilité. Ensuite, vous faites des bâtiments que tout le monde voit, qui restent dans les rues, qui abritent des gens. Bon, je ne suis pas en train de comparer les deux métiers, mais il y a pour moi un parallèle qui est celui de la construction, de l'agencement. C'est pour ça que je débute, vous le disiez tout à l'heure, je débute par la description d'un musée, puisque le personnage principal, Edwige, est architecte.
Voilà.
Et donc... On débute par une inauguration de musée, et c'est elle qui a décidé ce musée avec une de ses jeunes associées. Et donc, eh bien, par exemple, la description de ce musée est exactement, c'est un clin d'œil, hein, ça demande pas à être remarqué par le lecteur, ça serait, mais ça annonce tout à fait la structure du roman. Il va y avoir trois blocs, il y en a un qui sera un peu plus haut, un autre un peu plus bas, un un peu plus éclairé, l'autre moins éclairé. Mais voilà, c'est, pour moi, on peut façonner un roman exactement comme une figure géométrique. Et quand Goethe disait l'architecture, c'est de la musique figée, j'ai l'impression parfois qu'effectivement la littérature c'est un peu un mélange d'architecture et de musique figée, quoi. C'est vraiment on doit trouver quasiment un plan, des murs porteurs, et en même temps il doit y avoir des surprises puisque le lecteur doit pouvoir se balader à l'intérieur. Enfin, je pourrais filer l'image assez longtemps parce que je crois qu'elle marche pas mal.
Elle marche, mais on sent que bon, il y a une sorte, on sent bien votre intérêt pour l'architecture, mais on a l'impression que les personnages sont eux-mêmes architectes, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont porteurs, d'autres qui sont moins porteurs. Il y a des personnages, j'ai l'impression d'assister aussi à la construction, à la déconstruction de certaines vies. C'est comme si chacun finalement était l'architecte de sa vie. Vous écrivez à un moment donné, il faut faire avec les répercussions, comme si ces minuscules fissures du quotidien annonçaient forcément des failles sismiques. Donc chacun se construit son personnage, et à un moment donné, ça se fissure, ou ça, au contraire, ça prend forme. Est-ce qu'on peut dire que votre roman est aussi un roman d'apprentissage, finalement ?
Oui, complètement. Pour moi... Enfin, si je résume et je le dis un peu brutalement, le roman d'apprentissage, le roman de formation, comment dire, enfin, c'est la plus haute forme du roman pour moi. Et pour moi, ça ne se limite pas à la jeunesse, parce que souvent quand on dit roman d'apprentissage, on imagine la personne de 20 ans qui arrive à Paris. Non, ça se limite pas à ça, la meilleure définition pour moi, ce serait sans doute la phrase de La Rochefoucauld qui disait « Nous arrivons nouveau à chaque âge de la vie. »
J'allais la citer. Voilà. « Nous arrivons nouveau aux diverses âges de la vie et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années. » Comme quoi, on n'apprend rien.
On n'apprend rien. En fait, on se retrouve toujours face à des situations, on se dit que l'expérience va nous servir. Parfois, c'est vrai, mais c'est souvent vrai pour des problèmes pas très graves. Alors que quand les questions sont graves, on se retrouve dépourvu. Donc, le roman d'apprentissage, pour moi, est infini. C'est ce sentiment d'arriver face à des situations et de devoir s'adapter. C'est ça, c'est pour moi, le roman d'apprentissage. Donc là, oui, tout à fait, c'est un roman d'apprentissage...
À différents stades,
bien sûr.
Avec différents personnages. Alors, cette robe Saint-Laurent, bon, en fait... va peut-être enterrer sa mère avec cette fameuse robe. La robe Saint-Laurent, écrivez-vous, son rire bref et aigu troubla le silence de la maison. Elle imagina Jacqueline, sa mère, ulcérée. Tu ne vas tout de même pas enterrer ma robe, ma Saint-Laurent. Es-tu devenue complètement folle? Difficile de lui donner tort. Edwige avait pu mesurer elle-même le pouvoir de cette robe lorsqu'elle l'avait empruntée. Sa place était dans la rue, dans l'entrée d'un restaurant, sur une piste de danse, à la table d'une réunion importante, dans n'importe quel endroit où la vie redouble d'intensité, se dope au plaisir et à l'excitation, mais certainement pas dans un cimetière. En même temps, Edwige se représenta le sous-sol français, chaque mort allongée en tenue de gala choisie par ses proches. Donc il y a, quand je dis vous passez d'une dimension à l'autre, c'est très cinématographique, il y a pas un côté Woody Allen, mais il y a un côté où on plonge dans l'autre, on bascule de l'autre côté de la vie et de la mort.
Oui, et quand je vous disais exploiter toutes les possibilités du roman, c'est aussi ça pour moi. C'est-à-dire que là, par exemple, en une phrase, on peut imaginer aller sonder le sous-sol et voir. Enfin, voilà. Et ça, c'est. Je trouve que ce serait une mauvaise idée si le paragraphe durait 20 lignes. Je me dirais là, bon, à quoi bon faire cette idée un peu tape à l'œil, mais la littérature vous permet de faire cette allusion en deux lignes, en une phrase, et puis hop, de reprendre le rythme du récit, et c'est une image qui, je l'espère en tout cas, reste marquante. On peut imaginer les morts en costume et en robe.
Et un autre espace d'ailleurs, ça c'est sous-sol. Mais alors, autre objet transitionnel, le cahier hop, orange.
Évidemment.
Ce cahier m'a prouvé qu'il y avait des moments exceptionnels dans chaque vie. Voilà, donc Edwige tombe sur le cahier, le journal de sa mère.
Exactement, qu'elle tenait, que la mère tournait pendant le tournage de La Chamade.
Voilà. Et donc là, à chaque fois, il y a comme la voix, il y a une autre voix. Il y a la voix de la mère, la voix de la fille. Est-ce que ce qui vous a aussi intéressé, Jean-Pierre Montal, c'est ce rapport mère-fille?
Alors là, totalement. C'est même, c'est quasiment le point de départ du livre avec la passion de l'architecture, mais c'est même le point de départ du livre. J'ai toujours été fasciné par le rapport mère-fille pour plusieurs raisons. Alors d'une, pour une raison tout à fait autobiographique. Bon, on sait ce que ça vaut depuis Contre Sainte-Beuve, c'est pas si important, mais enfin, ça a son petit poids quand même. J'ai plutôt été élevé par des femmes, par ma mère et ma sœur, dans cette ambiance-là. Alors, c'est pas Zola, il y avait un père, il travaillait beaucoup, c'est tout. Mais j'étais plutôt en compagnie et entre ma mère et ma sœur. Donc, j'ai vu très tôt et j'ai baigné très tôt dans cette ambiance mère-fille qui, pour moi, est très particulière. Alors, j'ai écrit mon deuxième roman qui s'appelait Les Leçons du Vertige. Je l'ai écrit sur le rapport père-fils, donc c'est pas, j'en fais pas une obsession, mais pour moi, c'est très particulier, ce qui est un mélange à la fois presque fusionnel, il y a quelque chose de très étrange. Les filles et les mères peuvent être très proches. Et puis, il y a parfois une grande cruauté aussi dans ces rapports-là. Et j'avais très envie de parler de ce rapport. Notamment, je trouve, on va le dire vite, ça fait un peu cliché, mais j'espère que ça ne le fait pas dans le livre. C'est-à-dire que la liberté des femmes entre les générations. Une mère peut regarder aujourd'hui sa fille, en tout cas là c'était le cas, elle peut regarder sa fille de 50 ans et se dire, mais... elle a eu plein d'avantages que je n'ai pas eu. Et en même temps, Edwige, la fille, se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de toute cette liberté, finalement? Puisque la mère, elle, a fondé une famille, est restée mariée avec le même homme, alors que Edwige a tout donné à son travail, n'a jamais pu faire marcher un couple. En revanche, elle a la satisfaction d'une carrière professionnelle qui l'a complètement comblée. Moi, je suis pas là pour conclure, je suis là pour mettre en lumière des choses comme ça qui sont très, si vous voulez, qui sont que des interrogations que les personnages peuvent se poser et sur lesquelles ils peuvent changer d'avis aussi pendant le roman.
C'est vrai qu'Edwige reste une fille.
Oui, Edwige reste une fille.
Elle est une fille. Voilà. La mère est là sans être là. Il y a le père aussi, parce qu'en finalement, Edwige accomplit aussi... d'ailleurs, vous parlez beaucoup du déterminisme familial.
Oui.
Qui est peut-être plus puissant que le déterminisme social. Peut-être que, bon, vous dites, tu fais comme papa, pire, tu fais comme papa aurait voulu faire. Brave petite chose, téléguidée par les regrets du géniteur incapable de tracer un sillon bien à soi. Parce que le père a voulu être...
Il a voulu être architecte, oui, c'était un architecte... enfin, il aurait aimé, puis comme il le dit dans le livre, pour s'en débarrasser régulièrement, et quand on lui parle de ça, il dit « Oh, la vie, on a décidé autrement », parce qu'il ne veut pas en entendre parler. Mais effectivement, sa fille devient architecte. Alors, il en tire une sorte de fierté, mais qu'il est incapable d'exprimer quand elle lui dit pour la première fois qu'elle vient d'être embauchée dans une grande agence d'architecture. Il est incapable de lui dire bravo. Pourquoi ? Pas du tout parce que c'est un cœur sec, mais parce qu'en fait, il est complètement sidéré d'avoir transmis quelque chose, d'avoir transmis aussi clairement ce qui avait été sa propre passion et son propre regret. Et pour moi, je pense que, bon, c'est une matière de roman infinie, le déterminisme familial, à condition de le traiter de façon romanesque, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à « Oh, mon papa me disait ça et ma maman me disait ça », c'est-à-dire d'étoffer ça et de le mettre dans un cadre beaucoup plus large. Le thème du transfert de classe, par exemple, qui est dans énormément de romans et de récits actuels, je pense que c'est un grand thème romanesque, changer sa classe sociale, changer de milieu social, mais à condition que derrière, ça entraîne tout un bouleversement intime, que ça entraîne aussi d'autres personnages, que ça fasse une fresque un peu générationnelle. Vous voyez, c'est ça pour moi que le roman permet, c'est d'élargir la focale dès qu'on en a besoin.
Et en même temps, vous, par exemple, vous n'évitez pas du tout, au contraire, puisque c'est romanesque, les marqueurs sociaux, par exemple le prénom d'Edwige.
Ouais.
Vous dites, d'ailleurs, Edwige n'était jamais revenue à la mode, même dans les familles bourgeoises basket d'aujourd'hui, toujours à la recherche de marqueurs sociaux efficaces comme Oriane, Léopold ou Combe. C'était un angle mort de l'état civil et une parfaite illustration de la devise qui devait régir toute vie selon François Salandre. Donc c'est vrai que... Voilà, pourquoi le prénom, c'est important pour vous en tant que romancier ?
Complètement. Le prénom et le nom.
Oui.
Alors, je dois dire que c'est même... Parce que quand on écrit, il y a quand même quelques passages qui sont pas très agréables parfois. On en bave un peu. Mais alors, moi, un grand plaisir, c'est de chercher les noms de mes personnages. Alors,
vous faites des fiches de personnages
Non. Je cherche des assonances qui pourraient marcher. Alors là, elle s'appelle Edwige Salandre. Edwige Salandre, j'aurais pu être comme Jean-Pierre Léo, vous vous souvenez, quand il répète le nom de Delphine Seyrig en permanence. Voilà, dans Edwige Salandre, c'est quelque chose que tout de suite je me suis dit, ah oui, elle s'appelle Edwige Salandre. Donc après, je m'amuse beaucoup à me dire, sa mère, donc c'est la génération précédente, qu'est-ce que c'est que le prénom qui pourrait marcher ? Françoise Salandre, Jacqueline Salandre, ouais, très bien. Bon, le père Pierre Salandre. Henri c'est vieillot. François Salandre, voilà.
Donc il y a toute une généalogie,
oui,
romanesque.
Exactement.
Combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman, Jean-Pierre Montagne ?
Alors l'écriture en tant que telle, c'est un an et demi, deux ans, mais c'est une idée à laquelle je réfléchis, ouais, et que je porte depuis 7 ans.
7 ans, donc 7 ans de réflexion.
Oui, 7 ans de réflexion.
Bon, on va faire une petite pause musicale, on va voir ce qui nous arrive de la régie. Alors,
elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s'était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s'attaquait à présent à son sommeil. C'était un vent de printemps, le premier. Il sentait les bois, les forêts, la terre. Il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d'essence, et il arrivait léger, fanfaron, à l'aube, dans sa chambre, pour lui signaler, avant même qu'elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre. Elle referma les yeux, se retourna sur le ventre, chercha de la main, à tâtons, sa pendule par terre, le visage toujours enfoui dans l'oreiller. Elle avait dû l'oublier, elle oubliait toujours tout. Elle se leva avec précaution, glissa la tête par la fenêtre. Il faisait sombre. Les fenêtres en face étaient fermées. Ce vent n'avait aucun sens commun de circuler à cette heure-là. Elle se recoucha, rabattit ses draps énergiquement autour d'elle et fit quelque temps semblant de dormir. En vain.
Vous avez entendu un extrait de la chamade par Françoise Sagan. Et maintenant, juste après, en arrière-fond, vous entendez Brahms. Et oui, aimez-vous Brahms. Et c'est un des six chants d'amour. C'est le l'ode saphique.
Voilà, nous poursuivons notre conversation avec Jean-Pierre Montal autour de L'Or Chamade, son roman qui vient de paraître aux éditions Séguier. Et l'extrait de la chamade que nous venons d'entendre était lu par Sarah Forestier. Voilà, donc je dis ça pour nos auditeurs. Ils peuvent trouver, d'ailleurs, c'est un livre audio qu'on peut trouver sur Internet. Et voilà. C'est vrai que j'ai mis c'est un peu cet extrait de cet univers de Sagan, je ne sais pas comment on dit saganien, saganiesque, je ne sais pas. Parce qu'il y a une mélancolie chez Sagan, il y a une sorte de justesse aussi. Par exemple, quand elle dit bien sûr, on a des chagrins d'amour, mais on a surtout des chagrins de soi-même. Finalement, la vie n'est qu'une affaire de solitude. Et dans votre roman, Jean-Pierre Montal, c'est un petit peu autre chose. Et on parle aussi de transmission, beaucoup. On est l'héritier d'une histoire, on est l'héritier d'un lieu, et puis on fait avec. Pour revenir au tournage de la chamade, donc, où se sont rencontrés les parents de l'héroïne, en quelque sorte. Est-ce que vous avez fait des recherches autour de ce tournage? Qu'est-ce que il y a eu quand même j'imagine, hein, pour vous immerger dans...
Oui, tout à fait. J'ai lu un maximum de choses, beaucoup d'interviews d'époque aussi. Et quelques interviews de Sagan, des interviews de Deneuve, des interviews d'Alain Cavalier. Alors, de l'époque, assez peu, mais des interviews plus tardives. Parce que, alors, ce qu'il faut dire sur ce film, c'est que c'est un film charnière pour Alain Cavalier, très important pour lui. Oui. Il le tourne en 1968. Le tournage débute juste avant le mois de mai. Et donc, le tournage va même être interrompu par les événements de mai 68. Et pour Cavalier, c'est un point, il l'a dit très souvent, hein, c'est pas du tout une interprétation critique, hein, il l'a dit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il était dans ce décor qui filmait des grands bourgeois saganiens, et puis dans une très belle maison, avec des gens en robe Saint-Laurent ou en costume. Et puis, l'air du temps était complètement différent. Les étudiants étaient dans la rue, bientôt on allait occuper la fac de Nanterre. Et donc lui se disait, mais on vit dans une bulle, on est coupé du monde. Et donc, c'est la dernière fois qu'il a dirigé une des dernières fois, parce qu'après, il y aura le plein de super, mais c'est la dernière fois qu'il dirige des stars aussi importantes, je pense. Alors, il est revenu bien plus tard avec Vincent Lindon, mais enfin, c'est surtout son dernier film, on va dire, traditionnel, quelque part, puisqu'après, il va partir dans des expériences plus expérimentales, plus, où il filmera des gens, les métiers des gens, des natures mortes, des objets, souvent avec un dispositif en petite caméra vidéo, en refusant justement cet énorme cinéma, cet énorme dispositif technique, humain. D'ailleurs, il appelait Catherine Deneuve sur le tournage de la Chamade, il l'appelait Nefertiti.
Oui, tout à fait.
Parce que le moindre maquillage de Catherine Deneuve prenait 4 heures. Donc lui, il voulait quelque chose de plus vivant. En tout cas, il espérait autre chose. Et voilà, c'est un peu ce mouvement, cette bascule qui se fait dans son cinéma et qui se fait aussi dans la société. C'est-à-dire que ce monde... des grands
c'est
bourgeois.
C'est la fin d'un monde ?
Voilà, je pense qu'il y a quand même la fin d'un monde. Alors, les grands bourgeois, la grande bourgeoisie existera après 1968, rassurez-vous pour elle, mais je veux dire par là, il y a quand même, à un moment, on montre une façon de vivre qui sera très très vite, même les bourgeois, d'ailleurs c'est un des signes de la bourgeoisie, très souvent, même les bourgeois voudront adopter un mode de vie plus cool, étudiant, gauchiste, voudront intégrer ça. Donc ce mode de vie très, finalement très années 50 que décrit Françoise Sagan, à partir de 68, va basculer. Mais je tiens à dire que pour moi, La Chamade, le roman et le film, alors ce ne sont tous les deux, ce n'est absolument pas pour moi des bluettes un peu nostalgiques d'un monde. Au contraire, c'est un roman très dur. C'est un film très dur. On y parle de l'avortement de façon très frontale. On y parle du pouvoir de l'argent de façon très radicale. Sincèrement, La Chamade, et je le dis sans aucune exagération, c'est aussi, pour moi, c'est aussi critique, mais d'une autre façon, aussi critique, aussi dur que Weekend de Godard. C'est très, très frontal. Et c'est pas parce qu'il y a des robes Saint-Laurent, ce que ça dit sur le renoncement, sur la fin des passions. C'est du brutal.
Absolument. Et en plus, pour le film La Chamade, je crois que donc Alain Cavalier va perdre sa femme.
Juste après, oui.
Juste après,
oui,
hein, oui. Irène Thunk, je
oui,
crois.
Qui joue dans le film.
Qui
oui.
joue dans le film. Donc, c'est un moment de bascule. Alors, vous dites aux écrivains, alors il y a l'affiche hein, de la fameuse affiche que Edwige regarde d'ailleurs. Le titre du film La Chamade semblait sautiller dans une typographie arrondie, rose sur fond noir. En haut s'étalait un slogan sous forme d'équation autoritaire. Deneuve plus Piccoli plus Sagan égale Chamade.
L'essentiel est dit. Ouais. Les publicitaires de l'époque.
Oui, mais il y a tout ça. Il y a la typo de l'époque. Il oui. y a dans ce lieu. Hein. Et puis après, il y a le journal aussi, je pense, de la mer. Lundi, encore une scène de soirée mondaine. On dirait que tous ces gens s'appellent le matin pour s'inviter le soir et passent le reste de leur journée à choisir leur tenue. Et puis aussi, tu fais partie du club, nous sommes tous sous le charme ici. Alain pense que Catherine ne s'en rend même pas compte, elle vit tout le temps comme ça, choyée en permanence. Il dit que c'est un amour à sens unique. Chaque jour, justement, sa préparation est très longue, le maquillage prend un temps interminable, la coiffure aussi. Monsieur Cavalier l'a surnommé Nefertiti, comme nous disions tout à l'heure. Et puis, il y a le regard aussi qu'on a sur Françoise Sagan, qui est un écrivain... sur lequel on peut se tromper finalement. Il y a une sorte d'ambivalence de Sagan. Dans l'article, il y a cette phrase de Sagan, dans le nouveau monde des révolutionnaires, il y aura peu de place pour une Françoise Sagan. Donc elle est très lucide, Françoise Sagan, sur sa,
oui.
sur sa place.
Ah oui, oui, elle ne s'est jamais illusionnée sur ce qu'elle représentait.
Et puis après aussi, Sagan n'était pas un écrivain, juste un passe-temps, comme pour des vieilles peaux pleines de fric. Ça, c'est. Voilà. Et elle vient ici, comme. Je crois que c'est Philippe hein, qui parle d'elle, comme ça. Elle vient ici comme un cocktail. Elle n'a rien compris à ce qui se déroule sous ses yeux, et ça se prétend écrivain, c'est pathétique.
Oui, parce qu'elle va à une manifestation place de l'Odéon.
Voilà.
Et donc elle regarde et à un moment elle fait une remarque et, qui est vraie d'ailleurs, elle dit ah, c'est merveilleux toute cette vie quoi, en voyant la manifestation et le jeune personnage gauchiste dit mais, on a l'impression qu'elle est un cocktail quoi. Elle dit ah, c'est merveilleux, elle ne s'en rend pas compte. À mon avis elle s'en rendait très bien compte, elle savait très bien que le monde qu'elle était en train de décrire allait être d'une certaine façon balayé, mais elle savait aussi que comme c'était comme vous le disiez, on se trompe beaucoup sur sa grande... Et parce qu'il y a déjà beaucoup de livres. Les
oui,
gens qui ont fait beaucoup de livres peuvent en rater.
Ouais.
Donc, voilà. Mais en revanche, elle est d'une justesse parfois qui est très très impressionnante, qui est presque qui vient directement des grands moralistes, des maximes de La Rochefoucauld. Elle a un sens de la formule et de la justesse, et dans La Chamade, je trouve particulièrement. Et puis dans un recueil de portraits dont j'ai oublié le titre, qui avait été sorti chez Gallimard, et par exemple, j'y pensais, ce que vous citiez Sartre au début de l'émission.
Oui.
Elle fait un très beau portrait de Sartre,
oui,
qu'elle croise au flore.
C'est pas avec mon meilleur souvenir.
Si, non. C'est ça, exactement.
Je pense qu'on... Oui. Oui, parce que justement, elle a eu toute une amitié avec Sartre. Ils étaient nés le 21 juin tous les
c'est
deux.
C'est ça, et une amitié tardive, parce que Sartre était aveugle, elle l'aidait à manger, à couper sa viande.
Oui.
Et elle a une façon de le décrire qui est incroyable. Et c'est vrai que souvent, on décrit Sagan par l'image de Sagan plus que par ses livres, c'est-à-dire les voitures de sport, le jeu, l'alcool,
la vitesse,
la drogue sur la fin de sa vie. Mais quand on revient au livre, évidemment, peut-être que certains sont moins bons que d'autres, et ça, qui n'a pas ce problème. Mais quand on revient au bon Sagan, on est vite mouché quand même. C'est quand même un excellent écrivain.
Ouais, bon. Y compris le premier, hein, Bonjour Tristesse. Oui, quand on le relit, on est assez époustouflé quand même.
Et enfin, à quel âge
18 ans, ouais, enfin, voilà. 17-18 ans.
C'est fascinant. C'est...
Alors, il y a aussi des personnages secondaires dans votre roman, Jean-Pierre Montal. Par exemple, Gaël, pourriez nous en parler. Au fond, c'était ce qu'elle préférait chez Gaël, ce d'ailleurs qui signalait son absence totale de tact, une forme de franchise. On était rarement surpris par Gaël Loris. Déçu, oui, mais pas surpris. Et les gens surprenants sont souvent fatigants. Ça pourrait être une phrase, Sagan. Les gens surprenants sont souvent fatigants. Il y a aussi Hélène Dargès, qui a été une amie de la mère d'Edwige.
Oui,
je suis Hélène Dargès. Hélène, un prénom récurrent dans les conversations téléphoniques, l'amie des cours de tai chi, puis des séances de cinéma du jeudi après-midi. Hélène, la cinéphile. Et c'est vrai que Hélène Dargès donc, va apporter un éclairage.
Sur la personnalité de la mère.
Et du père, enfin de leur rencontre.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien avoir beaucoup de personnages dans mes livres. Voilà, et donc... Si c'est réussi, ça veut dire qu'il y a différents plans et arrière-plans. Il y a des personnages qui seront évidemment porteurs de tout le récit, puis d'autres qui viendront pour faire comme ça des éclairages. Attention, quand je dis ça, moi je déteste les personnages qui incarnent une idée. Pour moi, le personnage doit vivre, ne doit pas être l'incarnation de quelque chose, mais effectivement, c'est comme vous le disiez, c'est un éclairage, c'est une lumière. Quand quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, il n'en parle pas de la même façon. Et parfois, vous vous dites, ah tiens, je ne pensais pas ça. Donc là, c'est Hélène qui parle, qui est une amie de la mère, et qui parle à Edwige, qui parle de ses parents. Et elle essaye de lui dire que sa mère était au fond... assez fière d'elle, mais comme Edwige ne s'en est jamais aperçue, c'est ce genre de choses où on vous dit elle parlait beaucoup de vous, mais vous ne savez pas quoi en faire de ce genre d'informations, parce que bon, vous auriez voulu sentir une complicité. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages du roman qui sont sur la distance qui s'augmente entre la mère et la fille, qui se crée entre la mère et la fille. Et c'est Hélène qui à un moment essaye de dire, mais non, cette distance n'était pas si importante, mais bon, c'est pas... Et Gaëlle, c'est une collègue de.
Voilà, c'est une collègue.
Une collègue architecte. Mm. Et Gaëlle Loris, là, c'est un roman qui a quand même pour grand thème le travail. Voilà, qu'est-ce que c'est que le travail dans
la réalisation de soi aussi. De son rêve.
Oui, alors vous mettez le doigt sur un de mes travers. C'est que quand je dis travail, je dis ça, moi. Je pense qu'il y a que le travail. Il n'y a que le travail pour ça. Je ne vois pas comment. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient me dire si. La vie de famille, l'expression artistique, mais enfin bon, pour moi l'expression artistique passe par le travail, donc enfin voilà, travailler. Et Edwige a travaillé dans sa vie, elle a même tout dédié à son travail, mais sans en faire des caisses, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire sans dire à mon travail c'est toute ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment ce travail l'a complètement envoûté. Et à un moment elle parle avec Daniel Gisbard, qui était son mentor, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu es devenu vraiment architecte, parce que lui a été un architecte très reconnu, on en parlera tout à l'heure,
on va en parler.
Et il lui dit j'étais sauvé. Elle lui a dit, t'étais fier, t'étais contente, il dit non, j'étais sauvé. Elle lui dit, sauvé? Il dit, oui, je reste travail toute ma vie, j'ai trouvé.
Trouver sa voie. Voilà, je parlais de roman d'apprentissage tout à l'heure.
Complètement. Et pour moi, c'est un thème essentiel. Et voilà, quand j'entends aujourd'hui beaucoup de discours sur l'équilibre vie personnelle, travail, attention à bien l'équilibrer ça, j'ai envie de dire surtout à bien l'équilibrer pour qu'il y ait beaucoup de travail.
Oui. Voilà. Enfin, il faut être soi-même, et c'est vrai qu'Hélène Dargès, à un moment donné, donc, quand elle parle à Edwige, finalement, ça, elle la remet sur une voie. C'est comme des rails de chemin de fer. Votre père avait une formule pour parler de l'évolution de la région. Il disait un monde plus juste est un monde plus laid. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir visée parce que j'habitais un petit immeuble tout neuf. Mais maintenant, je dirais comme lui. On peut essayer de faire juste et pas trop laid. Vous êtes architecte, c'est ça. Donc tout la ramène à son métier parce que sa métier. Je parlais de construction au départ de notre conversation. C'est sa colonne vertébrale.
Oui.
C'est ce qui la met debout. Oui. Et puis, il y a un troisième personnage un peu en arrière-plan, mais qui est toujours là, justement, c'est François Salandre, donc le père d'Edwige Salandre. Voilà, donc il est... et c'est lui, d'ailleurs, qui survient un peu dans le fil du roman, quand il fait la connaissance de sa mère, il lui dit « J'aurais au moins fait quelque chose d'utile dans ma journée, je m'appelle François Salandre. » Cette façon de dire « Je m'appelle François Salandre, j'aurais fait... » C'est une phrase qui le présente, voilà.
Oui. Et puis, le père est un personnage qui est...
Qui rencontre d'ailleurs, donc sa mère le rencontre sur le tournage.
Sur le tournage. Elle égare à un moment le scénario, parce qu'elle est script.
Ouais.
Elle égare le scénario, elle est très embêtée, elle est assistante script avec Elisabeth Rapneau. Donc elle se dit, oh là là, je vais me faire engueuler. Et puis, lui, il retrouve le scénario, donc lui, il le rend. Et c'est comme ça que le contact s'établit. Et comme il a cette sorte de... Je me suis inspiré en miroir du personnage de Piccoli dans La Chamade. Il a une sorte de, vous voyez, d'autorité, calme. Et en même temps, on a l'impression que c'est de la froideur. Mais non, c'est une sorte de timidité contrôlée. Et donc, naturellement, il fait, je m'appelle François Salandre, qui est une phrase antinaturelle. Mais voilà, c'est un peu sa signature, cette espèce de froideur qui, si elle est bien assimilée, bien comprise, eh bien, ça a un certain charme.
Ouais. Et on a l'impression, d'ailleurs, le scénario du film implique un autre scénario parallèle, donc la rencontre, etc., qui va à son tour impliquer une autre forme de scénario, et ça n'en finit pas. Enfin, dernier personnage un peu secondaire, mais qui est là quand même, Florence Malraux, dont on avait dit, quand elle était enfant, très courageuse quand elle tombe. Voilà, c'est...
Oui,
c'est...
il y a beaucoup de gens sur le tournage de La Chamade. Il y a même Jean-Pierre... Stévenin.
Mm-hmm.
Jean-François Stévenin, voilà, je savais que c'était Jean-François Stévenin. Et donc Florence Malraux, la fille d'André Malraux, voilà, fille assez turbulente, qui s'était longtemps fâchée avec son père pour ses prises de position à gauche, et puis son père avait renoué avec elle, et grande amie...
De
François Sagan. Donc c'était un monde aussi ce tournage. D'ailleurs, il y a une diatribe à un moment de Elisabeth Rapneau, avec Jean-Paul Rapneau, qui dit à la jeune Jacqueline, qui lui décrypte un peu tout ça et qui lui dit, bon bah tu vois, Irène est en couple avec Alain a travaillé avec mon frère, voilà, elle lui décrypte tout ce monde et lui dit, voilà. C'est ça le cinéma. Tout le monde se connaît. Elle lui donne un peu le mode d'emploi, mais de façon brutale et amusée, parce que c'est un peu une micro-société, un tournage aussi. C'est un peu. J'ai essayé de faire sentir un tout petit peu un sentiment qu'on peut avoir dans La Nuit américaine de Truffaut, c'est-à-dire tout le monde est au travail, tout le monde est là pour réussir un film. Il se trouve que ce film va être interrompu, puis reprendre. Mais il n'empêche que, voilà, vous avez une micro-société, chacun a son rôle. Et donc, Florence Malraux a un rôle très, très particulier. Mais surtout parce qu'elle fait le lien avec Françoise Sagan et que ça lui donne l'occasion de parler très directement à Sagan et donc de lui dire quelques vérités et donc d'avoir des dialogues où ces femmes sont à côté de Jacqueline et Jacqueline voit parler ces femmes qui sont pas du tout du même milieu qu'elle et elle se rend compte de cette différence de milieu.
C'est une sorte de bouillon de culture ou de laboratoire, je ne sais pas. On va écouter un peu de musique et puis nous poursuivons notre conversation.
La vitesse. Elle aplatit les platanes au long des routes. Elle allonge et distord les lettres lumineuses des postes à essence la nuit. Elle bâillonne les cris des pneus devenus muets d'attention tout à coup. Elle décoiffe aussi les chagrins. On a beau être fou d'amour, en vain, on l'est moins à 200 à l'heure. Le sang ne se coagule plus au niveau du cœur, Le sang gicle jusqu'à l'extrémité de vos mains, de vos pieds, de vos paupières, alors devenues les sentinelles fatales et inexorables de votre propre vie. C'est fou comme le corps, les nerfs, les sens vous tirent vers l'existence. Qui n'a pas cru sa vie inutile sans celle de l'autre, et qui en même temps n'a pas amarré son pied à un accélérateur à la fois trop sensible et trop poussif, qui n'a pas senti son corps tout entier se mettre en garde, la main droite allant flatter le changement de vitesse, la main gauche refermée sur le volant et les jambes allongées, faussement décontractées et prêtes à la brutalité vers le débrayage et les freins, qui n'a pas ressenti, tout en se livrant à ses tentatives, toutes de survie, le silence prestigieux et fascinant d'une mort prochaine, ce mélange de refus et de provocation, n'a jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie, ou alors peut-être n'a jamais aimé personne.
Alors, vous avez entendu la voix de l'écrivaine dans la vitesse. Et maintenant, nous avons une petite respiration musicale d'une compositrice qui s'appelle Charlotte Sohi et qui a écrit en 1952 une histoire sentimentale pour orchestre à cordes et percussions. Et là, c'est le titre « Absence ».
Et voilà, nous reprenons notre conversation, toujours autour de L'Or Chamade de Jean-Pierre Montal. C'est un roman, ça me paraît, aux éditions Séguier. Nous allons enfin parler d'architecture, Jean-Pierre Montal. Parce qu'il y a la musique, et puis il y a cet élan de... Alors j'étais très surprise, vous aimez beaucoup La Défense.
Énormément, oui.
Il suffisait de lever la tête pour prendre à chaque instant une leçon de philosophie, presque de morale, grâce aux gratte-ciel de différentes époques. Au fond, la modernité n'existe pas, elle se résume à une succession de styles qui se croient tous meilleurs qu'un autre à un instant T, puis deviennent désuets, gagnent en charme ou au contraire se fichent dans la laideur selon une loterie aux règles obscures. Donc, cette fascination pour La Défense, moi, c'est... J'étais un peu surprise, mais enfin bon.
Comme beaucoup de gens, je vous rassure. D'où ça vient, j'aurais du mal à l'expliquer, très honnêtement. J'ai vu La Défense la première fois, et j'ai tout de suite adoré. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs niveaux à La Défense. Alors, on peut parler d'espace, par exemple.
Oui, c'est ça. Ouais.
Beaucoup de gens... parcours La Défense en verticale. C'est-à-dire que vous partez en gros, vous mettez l'obélisque de la Concorde dans votre dos, puis vous partez vers l'Arche. Et puis vous remontez cette esplanade qui est effectivement un peu aride et jonchée de gratte-ciel. Mais marcher comme ça, ça donne juste une impression, on regarde les gratte-ciels, il y en a des magnifiques, hein, sincèrement, la tour initiale, c'est une réussite grandiose, la tour EDF est... Je trouve magnifique avec son décroché en bas pour la porte d'entrée, là, très, très brutale, très, très jolie. La tour totale dit tout du fond et de la forme. C'est-à-dire que là, cette grande tour noire opaque, ces deux grandes tours noires opaques, là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Bon, voilà, on peut marcher comme ça. Mais la vraie défense, si j'ose dire, c'est d'aller sur les côtés, c'est d'aller en horizontal, de passer derrière cette première bordure de gratte-ciel. Et là, vous tombez sur des immeubles brutalistes, beaucoup plus bas, parfois de 5-6 étages, avec un peu de verre fumé, c'est très étrange. Vous tombez sur des céramiques, des décorations en céramique, vous tombez sur des statues complètement improbables qui s'appellent les polybules, qui sont des je ne sais pas comment vous dire, des formes comme des quilles de bowling colorées qui sont plantées dans un bassin. Ce bassin était sans doute fait pour avoir de l'eau, il n'y en a plus. Elles sont là, seules, complètement. Et là, on touche à la vraie défense, c'est-à-dire que c'est à la fois complètement mélancolique, ça se veut moderne partout et c'est déjà désuet, mais parfois extrêmement réussi, comme l'immeuble Les Damiers, qui a une place très importante dans le livre.
Oui.
Et qui est, à mon avis, une très grande...
Qui est construit donc par Gisberg.
Alors, dans le livre, voilà. Oui. Voilà. Je cite les vrais architectes des Damiers, parce que je ne voulais surtout pas leur enlever leur création, mais je rajoute mon personnage de fiction.
Votre personnage de fiction, donc Daniel Gisberg, qui est donc, qui a été l'amant d'Edwige. Enfin, oui. Ils ont une histoire ensemble. Il a des problèmes avec Me Too. Bon, bref, c'est un personnage... mais est-ce que c'est important, pour revenir à votre fascination pour l'architecture, Jean-Pierre Montal, est-ce que c'est important pour vous, en tant que romancier, d'être contemporain de vos contemporains ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, souvent on me dit, parfois je lis, souvent on me dit, les gens ne m'abordent pas dans la rue, mais...
Ça va venir.
Pas John Lennon non plus. je lis, ou dans certains articles, romances nostalgiques... C'est vrai que ce que j'aime, c'est confronter deux époques. Mais je n'ai pas de nostalgie particulière pour 68. C'est-à-dire qu'il y a des choses de 68 ou de 66 qui me font rêver, mais pas tout. Hein. Je ne voudrais pas être forcément téléporté, être un jeune de 18 ans en 68, ou un homme de 50 ans comme je suis aujourd'hui en 68. Je n'ai pas de nostalgie là-dessus. C'est pour ça que j'aime confronter les époques, et c'est pour ça aussi que je parle d'aujourd'hui. Et c'est une des plus grandes parties du livre, d'ailleurs. Le livre est assez contemporain, il y a des allers-retours dans le temps, mais il y a aussi des allers-retours en 1988. Vous voyez, je ne suis pas là pour décrire un âge d'or. Je n'y crois absolument pas, sauf dans certains domaines. Oui, j'aurais préféré acheter mes disques en 66 parce que j'aurais adoré acheter le dernier Beatles. Mais je ne rêve pas non plus de me dire. Enfin, je ne me dis pas que c'était un monde idyllique. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est très important de parler d'aujourd'hui. Un roman qui ne parle pas d'aujourd'hui. Je vois trois catégories de romans qui louperaient leur coup. Peut-être que je l'ai fait, d'ailleurs. Je ne dis pas que j'ai évité ces écueils à chaque fois, mais en tout cas, j'essaye. La première catégorie de romans, c'est le roman d'idées. C'est-à-dire où les personnages incarnent des idées, puis on veut dire des choses sur aujourd'hui, mais on veut dire des idées sur aujourd'hui. Quand l'essai affleure trop derrière le roman, bon, je trouve qu'on loupe un peu son coup, comme disait Proust. Quand on voit trop la théorie, c'est comme si on avait laissé le prix sur un cadeau. Quoi. Et après, pour moi, il y a une catégorie de roman, c'est celui qui ne fait jamais rire. Le roman qui n'a aucun humour, aucun trait d'esprit. Le roman très sérieux, dans un style très engoncé, presque vitrifié.
Un peu soporifique.
Un peu soporifique, mais très, 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 très bien écrit. Donc vous ne pouvez dire qu'une seule chose, c'est qu'est-ce qu'il écrit bien.
Ouais.
Voilà. Alors ça, je pense qu'on loupe son coup aussi. La langue doit être vivante, elle peut parfois un peu bâcler. Moi, un de mes maîtres absolus, c'est Stendhal. Stendhal, quand ça l'ennuie, vous le sentez tout de suite, il y a deux paragraphes qui sont écrits.
Et ça va vite. Hein.
Et ça va vite. Et voilà. Donc ça, c'est un point très important pour moi. Et puis, il y a le roman qui ne parlerait jamais de son époque. J'ai beaucoup de mal à lire un roman d'aujourd'hui historique, si vous voulez. Quelqu'un me raconterait une très belle scène de la Fronde, ça me distrairait, mais voilà, je trouve que le roman doit raconter son époque. Regardez, par exemple, c'est pas forcément, ça vous donne pas forcément des romans datés. Le Rouge et le Noir parle de son époque, ou en tout cas, voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez le lire pour les sentiments qui sont exprimés. Donc moi, je trouve que voilà, le roman ne doit pas s'enfermer dans un bocal entre c'était l'écriture pour l'écriture. Et le roman de collectionneur. Il faut accepter l'intérêt de son époque et également la médiocrité de son époque. Après tout, aucune époque n'a échappé à la médiocrité.
Voilà. Bien sûr. Et puis j'ai pensé aussi que l'architecture était pour vous, je pense à une phrase de Moravia qui dit que tout romancier a une clé ou une sorte de fil conducteur. Certains c'est l'argent, d'autres c'est le sexe, chacun voilà. Et vous c'est l'architecture, c'est ce qui reste. Et en même temps, je parlais tout à l'heure du dialogue entre les lieux. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la mezzanine. Quand Edwige va chez donc Daniel, à un moment donné, la nuit serait plus calme. Elle avait envie de rester dans cet appartement qui lui apparaissait comme le négatif épuré et lumineux de la mezzanine de son père. Donc chaque espace s'imbrique.
Oui.
Chaque espace est comme un jeu de puzzle, on pourrait dire. Je ne dirais pas qu'il y a un côté pérequien, mais il y a comme un petit, il y a un petit côté comme ça, tac, tac, tac. Vous faites comme une fresque avec des petits bouts de vie que vous assemblez, puis tout d'un coup, on a une fresque.
Oui, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, on ait une impression d'ensemble, alors qu'il va varier selon tous les lecteurs, selon chaque lecteur, mais qu'on ait une impression d'ensemble, qu'on regarde presque un paysage à la fin, ou une grande toile avec des bouts de bâtiments qui s'imbriquent, comme vous le dites, et puis des visages, et puis parfois un modèle de voiture, il y a une Lancia qui revient très souvent, enfin voilà, que j'aimerais que...
Ah, on parlait de la vitesse tout à l'heure, voilà, la
oui,
Lancia.
La Lancia.
Et Gisbach, donc Daniel Gisbach, qui est qui est aussi le second personnage principal, hein,
oui,
on peut dire, c'est un binôme. Hein,
oui, oui, c'est l'histoire d'un couple.
C'est un couple,
une histoire
un couple, voilà. Alors lui, c'est l'homme sans bâtiment.
Oui.
Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez que, comme un philosophe, lui, il a une éthique et il veut finalement que ses constructions concordent avec sa pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Justement, vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas de séparation. Hein. Vous dites, vous écrivez, les architectes construisent des logements dans lesquels ils refusaient d'habiter. Fernand Pouillon, l'un de ses mentors, s'appliquait déjà ce principe. Il l'avait imité, il assumait aussi ses plans, ses idées, le risque patrimonial.
Oui.
C'est-à-dire que lui habite,
oui.
À chaque fois qu'il construit un immeuble, il l'habite.
C'est une histoire que... Alors, au point de vue, l'architecture est une passion, et puis surtout, en m'intéressant à l'architecture, j'ai noté que les grands architectes de l'après-guerre étaient quand même tous... des grands personnages de romans. Fernand Pouillon a eu une vie exceptionnelle. Il a été arrêté, mis en prison, il s'est évadé, il est parti en cavale, il s'est rendu à la police, il a eu un jugement. Bon, enfin, c'est une vie complètement rocambolesque. Claude Parent, qui est un architecte que j'admire énormément, lui était un personnage très drôle, presque un personnage de De Broca. Il adorait arriver sur les chantiers en Ferrari juste pour emmerder les élus locaux, pour leur dire oui, moi je fais beaucoup d'argent. Il avait absolument pas la Ferrari, il l'empruntait souvent. Enfin bon, et voilà, c'est des personnages comme ça assez fascinants. Donc j'avais envie de faire une synthèse de ces grands personnages dans le personnage de Daniel. Et Daniel Gisbach, comme vous dites, à un moment, à une période où il fait beaucoup d'écrits théorique et beaucoup d'expositions. Donc il construit peu. Mais en fait, après, il va se remettre à construire. Et avant, il aura construit. Et ça m'intéressait aussi de parler des réputations des gens. C'est-à-dire que on retient ces expos et on dit, ah, c'est l'homme sans bâtiment, c'est l'architecte de papier, c'est pas sérieux. Or, c'est faux. Mais il va devoir lutter contre sa réputation. Et ça m'intéressait. Et ensuite, Daniel, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire un homme qu'on peut adorer, détester dans le livre, quoi, qui est tellement exagéré qu'on peut parfois en avoir marre de lui, mais en même temps, on est obligé de l'admirer.
Bah, c'est d'une vraie personnalité. Par exemple, il dit, tu vois, cette barre, c'est du systématisme à la Corbusier, bon à jeter.
Oui.
Il a des formules.
Oui.
C'est quelqu'un qui a le sens de la réplique et de la formule.
Oui, tout à fait. Et puis, il est très tranché. Il n'a pas du tout de... Il n'y a pas de relativisme dans les avis de Daniel, puisque l'architecture a été toute sa vie. Et il le dit sans aucun mélodrama, enfin sans aucun ton.
C'est un fils de maçon d'ailleurs.
C'est un fils de maçon. Et puis, on oublie très souvent, même des grands architectes, des très grands architectes comme Mies van der Rohe par exemple, étaient des autodidactes. Il y a une notion dans l'architecture d'une certaine époque où se lançaient un peu des aventuriers, quoi, des gens qui avaient une vision et qui la mettaient en œuvre. Je crois même que Mies van der Rohe, je voudrais pas dire de bêtises, ce serait à vérifier, mais je crois même que pas aux États-Unis, on lui a refusé de signer un bâtiment parce qu'il n'avait pas les diplômes, parce qu'il les avait au fond, il s'était lancé, et puis après on a dit que c'était évidemment certains de ces bâtiments, puisque il a été reconnu comme un génie. Donc il y a cette nature, pour moi c'est très important, cette nature d'homme qui a tordu la vie, quoi, Daniel. Il a tordu le destin. Et il en est d'ailleurs très conscient. Il en est très fier. Et il considère de façon complètement égomaniaque que ça lui donne des droits. Il a été capable de faire ça. Ces bâtiments, on peut les voir, on peut les juger. On peut le juger sur pièce, quelque part. Et il n'y a que le travail qui parle pour lui. C'est pour ça que son histoire d'amour avec Edwige, je vous disais tout à l'heure qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a tout donné au travail. Daniel lui a fait ça aussi. Ils se sont un peu rencontrés là-dessus. Et il y a quelque chose auquel je crois beaucoup derrière tout ça, c'est que la fusion intellectuelle, quelque part, les idées, le travail ensemble, c'est le premier pas amoureux, en fait.
Oui, Ils se ressemblent un peu, tous les deux, finalement. Une autre formule de lui, un immeuble, c'est un volume fixe. Pour l'aimer, il faut le voir devant soi, immobile, pas en train de tourner sur un écran comme les sushis d'un resto japonais. Ouais, donc, il aime l'architecture vivante, il aime l'architecture audacieuse aussi.
Oui, audacieuse, et puis il déteste la 3D, vous savez. Voilà. Il déteste aussi ces projections qu'on voit partout maintenant. Quand vous avez un chantier, on voit des dessins de bâtiments, et puis des gens en vélo, des enfants qui jouent avec un ballon, c'est tout ça. Monde idyllique. Il dit non, il faut regarder le bâtiment. Et c'est pour ça qu'il fait faire, comme le faisait Claude Parent, il fait faire des maquettes en bois de ces bâtiments. Ce qu'il dit, il faut le voir, en fait, il faut le voir immobile. Et puis, il faut tourner autour. Faut pas voir, le bâtiment n'a pas à tourner pour nous. Là, on change les règles du jeu, c'est pas de l'architecture.
En même temps, ces maquettes, c'est de l'imaginaire. Oui. C'est du pur imaginaire. Et c'est un homme aussi d'imaginaire, ce Daniel, puisqu'il a écrit un manuscrit, La chambre d'ambre.
Oui.
Cette idée traînait dans ses tiroirs depuis une dizaine d'années. Il avait décidé de la reprendre le mois dernier. Le livre retraçait l'histoire de cette pièce dont les murs étaient recouverts de sculptures en ambre véritable. Elle avait été offerte au tsar Pierre le Grand par le roi de Prusse Frédéric Guillaume en 1716. Donc c'est là aussi, c'est 55 mètres carrés, parfois baptisé 8e merveille du monde. Donc là, on tombe brusquement avec ce manuscrit, cet autre texte, dans son imaginaire.
Oui, c'est ce qui l'occupe. Et puis, il explique à un moment, on comprend pourquoi cette chambre d'ambre l'obsède. C'est le lieu, c'est aussi un lieu qui a disparu. C'est un lieu qui a été entièrement démonté. On ne savait pas où il était à un moment, on ne savait pas où étaient les parois de la chambre d'ambre. On ne le sait toujours pas, d'ailleurs, il y a plusieurs théories. Donc, c'est une façon, par le travail, d'accéder, comme vous le dites, à l'imaginaire, et par l'imaginaire, de comprendre le bonhomme, de savoir quel personnage il est. Et ensuite, donc, de mener l'histoire, parce que pour moi, c'est créer un personnage, c'est créer quelqu'un qui embarque le lecteur. Et vous accepterez, si le personnage marche, vous accepterez de le suivre même dans ses moments les plus incompréhensibles.
Oui, parce qu'il se retrouve, il a des problèmes donc, avec une de ses employées, voilà. Donc Edwige, on le connaît, il se retrouve, il y a une sorte de parenthèse. Et c'est vrai, vous dites, les habitudes de l'un s'incrustaient dans le quotidien de l'autre pour le changer en contrée le plus exotique. Ce genre de voyage mène vers un deuxième stade de l'intimité. Donc ils se connaissent bien tous les deux. Ils peuvent se parler, ils se parlent d'ailleurs.
Ils se parlent et la complicité intellectuelle à créer quelque chose d'unique et même quand ils seront séparés parce que leur histoire d'amour va être très compliquée et c'est quand même l'histoire de ce livre c'est l'échec d'un amour même quand ils seront séparés il y a quelque chose d'indestructible et entre eux qui vient de cette vision commune et encore une fois du fait d'avoir travaillé ensemble mais aussi réfléchi aux mêmes questions. Toute leur vie ils se sont demandé qu'est-ce qu'un bâtiment, quoi? Pourquoi construire un bâtiment? C'est Roland Simonet, je crois, un grand architecte que j'admire beaucoup, qui passe beaucoup à l'AS en ce moment, et qui disait il faut toujours se demander pourquoi on va mettre un bâtiment là, alors que ça pourrait très bien rester vide, quoi. Vraiment. Donc, il faut toujours se poser cette question. Et Simonet faisait des tonnes de relevés sur les terrains. Il allait interviewer les gens. Il voulait absolument savoir quelles étaient les caractéristiques de terrain. Et le terrain, ensuite, lui dictait quasiment le bâtiment à dessiner.
Est-ce que aussi, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la postérité de l'architecture. Tu sais ce que disait Perret, l'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines.
Oui.
Il y a une sorte de philosophie de l'après, de la postérité. Il est quand même hanté par ça.
Il est hanté par ça. Il pense que, il clame très fort que son œuvre construite va parler pour lui et elle va rester. Mais au fond, il sait très bien que rien n'est éternel et que même le plus grand bâtiment de béton est promis à la ruine, quoi qu'il arrive.
Doit-on accepter le digne destin des bâtiments et des hommes devenir un jour ou l'autre des ruines? Donc il y a une interrogation sur le vieillissement.
Oui, même sur...
Le vieillissement d'un amour, même.
Le vieillissement d'un amour, le vieillissement des sentiments, le vieillissement des villes, le changement des villes. C'est un livre sur le temps, les ravages du temps. Parfois, les ravages nécessaires du temps.
Il y a un personnage que vous aimez bien, vous les aimez tous, vos personnages,
oui.
Jean-Pierre Montal.
Oui, je les aime tous. Je les aime tous et puis parfois ils méritent. J'ai beaucoup aimé écrire les grandes diatribes de Daniel dont on parlait, quand il s'enflamme, qui parle parfois de lui à la troisième personne, parce que ça le surexcite. J'ai beaucoup aimé écrire cet aspect-là, qui m'a énormément parlé, et j'ai beaucoup aimé écrire en me disant, voilà, là, il va être désagréable. Mais d'une certaine façon, puisque je savais qu'après, il allait être différent. Vous voyez donc,
Oui, et puis il y a aussi vos propres diatribes. D'accord, il y a deux professions qui, on les dit tous ce qu'elles touchent, les avocats et les médecins. Pour une bonne raison, elles sont toutes deux persuadées de sauver le monde. Il y a pas mal de formules, hein.
Oui, mais ça, rien. Je le pense très sincèrement. Donc, voilà.
Et alors,
se méfier des avocats et se méfier des médecins.
Oui, ouais, mais il y a des formules comme ça, alors que c'est un roman, finalement, c'est écrit d'une façon très calme, très posée. Il n'y a pas. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas du tout dans la. C'est un roman d'amour, enfin, un roman de la fin d'un amour.
Oui, c'est vraiment...
Mais alors, pour justement cette fin de cette histoire, adossée contre une étagère de bois, Edwige donc feuilleta un court volume du moraliste La Rochefoucauld. Une maxime se détacha d'une page ouverte au hasard. En amour, celui qui guérit le premier est toujours le mieux guéri. Mais Edwige. Edwige aussi, c'est bien qu'ils se soient retrouvés, puisqu'on sent... En fait, elle est en recherche d'un épilogue.
Oui, exactement. Exactement. Il faudrait que cette histoire d'amour avec Daniel aille quelque part, si vous voulez. Elle est en recherche d'un épilogue. L'épilogue viendra, puisque l'épilogue vient toujours. Je crois que c'est Paul Valéry qui dit cette phrase que j'adore, qui est « Tout est bien qui finit bien, puisque tout finit ». Et je pense pas qu'on puisse faire une phrase plus forte, sincèrement, parce que là, je crois que là... Et donc, mais elle revient et elle retrouve cette complicité avec lui alors qu'elle connaît tous ses défauts. Et le roman explique à quel point il a été insupportable avec elle, décevant, mais aussi primordial dans sa vie. Mais effectivement, elle voudrait savoir un peu le fin mot de cette relation.
Le fin mot est aussi un épilogue aussi familial, puisqu'au départ, il y a la disparition de la mère, il y a son passé à elle, il y a ce qui lui reste d'avenir. Enfin, on sent que c'est une femme qui cherche une réponse.
Oui, tout à fait.
À ces questions. Le sentiment amoureux n'échappe pas à l'entropie. Il suffit d'une déperdition d'énergie, d'une baisse d'intensité volontaire ou non, pour que le désordre l'emporte et que la fin devienne irréversible. On sent une sorte de trou noir. La couverture du livre, c'est vous qui l'avez choisie avec l'éditeur. On voit une photo. On voit en partie Catherine Deneuve dans La Chamade.
Oui, qui vient rejoindre son amant. Ouais. Oui, bien, c'est une proposition de la directrice artistique de Séguier, Justine Dupré, qui a trouvé cette photo et qui surtout a trouvé ce cadrage très étonnant.
Oui, c'est ça.
Et on a été tous en même temps, tous convaincus d'un coup.
C'est important le cadrage quand on écrit un roman.
Oui, moi je pense que c'est très important. Je crois que c'est Houellebecq qui dit un écrivain, ça doit savoir viser. Je crois que c'est vrai ça.
Houellebecq aussi qui a un regard sur l'architecture.
Tout à fait, oui. Qui a écrit de très belles choses et qui partage, on partage une admiration commune pour le quartier de Beaugrenelle et la tour Totem.
Ah bah oui, vous êtes dans les tours. C'est vrai, parce que je cherchais dans ma tête quels étaient les écrivains contemporains qui parlent de l'architecture, et Houellebecq, c'est vrai, en fait partie. Le cadrage mais est-ce qu'on peut dire, vous, il y a quand même beaucoup de... C'est pas du noir et blanc, c'est de la couleur. Là, justement, je vois la couverture de votre livre, Jean-Pierre Montal. Il y a beaucoup de couleurs quand même dans votre récit, dans votre...
Oui. Et puis, pas de couleur sépia. J'insiste encore sur ce côté. C'est pas parce qu'on parle des années 60 et de 68 qu'on fait nostalgique. On confronte deux époques, on frotte deux cailloux, comme ça, et c'est pour créer des étincelles aujourd'hui. C'est pas du tout pour... Donc, il y a beaucoup de couleurs. C'est un roman qui, je pense, est assez contemporain, ne serait-ce que parce qu'il parle aussi beaucoup d'architecture que l'on peut voir encore, et qui est même d'architecture très récente.
Alors après, il y a l'épilogue de La Chamade, ça j'aime bien. C'était fini, l'écriture de Jacqueline s'arrêtait en haut d'une page, la suite était connue. Elle partirait avec François Salandre, elle lui offrirait la robe Saint-Laurent lors de sa demande en mariage, en souvenir de leur premier dîner. Edwige naîtrait ensuite, Catherine Deneuve poursuivrait son ascension, les Antoine et les Philippe aussi d'une certaine façon. François Sagan deviendrait une sorte de fragile monument national, l'un des rares noms d'écrivains connus de tous, en général, pas pour ses livres. Irène Tunk mourrait dans un accident de voiture en 1972, et après La Chamade, Alain Cavalier ne tournerait plus de film pendant 7 ans. Voilà, là on l'a, l'épilogue.
Oui, La chamade, le film La chamade et le roman, quelque part, puisque en plus Sagan et Cavalier ont travaillé en très étroite relation. Hein, ils ont adapté ensemble pour faire le scénario. Le film, le roman La chamade, le film La chamade amène quand même à ce que vous venez de lire, c'est-à-dire à une conclusion assez dure. C'est un film dur, hein, et ça, on débouche sur une morne pleine après La chamade, comme un peu. Vous savez, après 68, moi, quelque chose qui me marque beaucoup, c'est quand les gens vous parlent de 68, vous avez ceux qui ensuite sont partis faire de la publicité, qui vous disent « Oh, quelle journée merveilleuse, 68, c'était la liberté ». Bon, voilà, c'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien, je n'y étais pas. Mais il y a aussi toute une autre école qui est magnifiquement décrite, représentée par Philippe Garrel, le cinéaste Philippe Garrel, dans un film qui s'appelle « Les amants réguliers ». C'est la gueule de bois d'après 68, quand vous y avez cru. Ouais. Quand vous avez pensé que ça basculerait. Dans Les Amants réguliers, ensuite on voit l'année 69, on voit ce moment où, ben voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand on a cru à quelque chose, quand on a poussé quelque chose au plus loin, que ça n'a pas pris, et ben c'est quelque chose de très dur à vivre, quoi. Et toute proportion gardée, je trouve que cette fin de tournage de La chamade amène un peu à ce sentiment de l'autre côté, pas du côté des révolutionnaires, quoi.
Bon, on va faire une pause musicale, une dernière pause musicale, et nous reprenons un peu notre lecture de L'Or chamade de Jean-Pierre Montal.
Sait-on jamais qu'on se forme une bande? On sort deux ou trois fois, puis on se saoule. On s'avoue à mi-voix que l'on est du même moule. Quelques concerts, quelques manifs ensemble. Le physio du Kéops qui nous refoule. Retour en bus 33, au fond, roulé en boule. J'ai dans l'œil une perspective un peu faussée. Un jeu de miroir bien disposé. Qui parfois le soir reflète des silhouettes. Sait-on jamais comment se délite une bande? Ce qui est pointe au chômage, ce qui étudie, ce qui annonce la naissance d'Augustin et Lucie. J'ai dans l'œil une perspective un peu faussée, un jeu de miroir bien disposé, qui parfois le soir reflète des silhouettes oubliées. Je me souviens de l'abribus et du froid à Pierrefonds. Je n'ai rien oublié, pas même les posters dans ta chambre. On ne s'affiche plus sur mon téléphone. J'ai l'impression de ne plus rencontrer personne. Ton s'affiche plus sur mon téléphone. J'ai l'impression de ne plus rencontrer personne. Qu'il paraît long, ce mois de décembre, depuis que j'ai lu ton nom dans le journal. 15 heures, stricte intimité, cathédrale Saint-Charles.
Ce ce disque, vous ne le trouverez pas dans le commerce.
Voilà, Jean-Pierre Montal, vous allez tout nous dire sur ce choix musical
oui.
qui vient de vous.
Merci d'avoir passé ce morceau. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Les Mercuriales.
Ouais.
Ça nous ramène à l'architecture, puisque les deux tours mercuriales en bordure de périphérique parisien. Alors, c'est un groupe pour lequel j'ai le plaisir d'écrire et de chanter. Et voilà, parce que quand j'écris un roman, j'élague beaucoup. Il y a des scènes, voilà, donc on enlève un peu. Et ces scènes me donnent l'idée d'autres textes, souvent. Et puis, moi, je mets la musique au-dessus de tout. C'est-à-dire, on me dirait, si Dieu me... Ni Dieu, ni maître, bien sûr, mais, si quand même Dieu venait me voir et me disait tu préfères avoir écrit le deuxième album de Roxy Music ou Madame Bovary, je dirais le deuxième album de Roxy Music. Voilà, je mets la musique au-dessus de tout. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a complètement fasciné. Et donc j'écris souvent des chansons, des textes de chansons que je propose au Mercurial à partir de scènes de romans. Et là, en l'occurrence, c'est qu'à un moment, j'avais essayé d'écrire sur ce que Daniel pouvait se dire. Daniel repensait aux années et il se demandait comment la mémoire pouvait fonctionner, parce que il lui revenait des images qui n'avaient aucun intérêt de son passé et qui remontaient à la surface. Et il disait, c'est comme un jeu de miroir qui aurait été bien disposé, et on regarde dans un miroir et il y a le reflet d'un autre miroir, et comme ça on peut aller d'une image à une autre. Et dans le cours du roman, cette réflexion, elle venait toujours bloquer le rythme. Et donc j'ai écrit ce refrain, j'ai dans l'œil un jeu de miroir bien disposé. Et ça a entraîné tout le reste de la chanson, plus l'idée de la bande, qui est la bande d'amis de Jacqueline au début du livre. Voilà,
donc on pourra le trouver dans
L'album sortira en novembre. Ouais,
en
tout
novembre,
à fait.
Les Mercurial, voilà, c'est
important. Voilà. Titre de l'album, Les choses m'échappent.
Bah écoutez, voilà, au moins nous sommes en avance sur la sortie de cet album. C'est vrai qu'il y a votre roman, c'est comme un labyrinthe. Il y a des prismes, il y a des éclats. Et puis, il y a un temps pour tout, elle ne repoussait plus la nostalgie comme elle avait pu le faire après la mort de Daniel. Au contraire, elle l'accueillait désormais, l'espérait et parfois la convoquait, car avec elle s'arrêtait la nuit de la tristesse brute. Il y a un temps pour tout, on sent qu'elle a trouvé elle a eu des réponses avec les êtres qui lui importaient, et puis elle peut enfin accueillir ce sentiment, on fait le bilan de sa vie, elle est à la mi-temps de sa vie, hein, on peut dire, 50 ans à peu près. Donc,
Oui, et puis on essaie souvent de rejeter certains sentiments douloureux, jusqu'au moment où finalement ça sert à rien de les rejeter. Mais il y a quand même cette période qu'on a tous, je crois, connue dans nos vies, où à un moment c'est possible, finalement, de les accepter.
De continuer avec.
Et moi je crois assez peu aux expressions faire son deuil, l'expression d'une volonté par rapport à ces événements. Il y a un moment où c'est possible. Et c'est ce moment-là que j'ai essayé de décrire à la fin du roman.
Sans doute au moment où on peut tourner la page. Alors, il y a une phrase que j'ai bien aimée. Dommage que ça soit si sombre ici, mais on sent qu'il y a un beau potentiel.
Ah, voilà. Alors, j'aime beaucoup les clichés sur l'architecture et l'immobilier. Alors, voilà. C'est baigné de lumière.
Voilà.
Et là, souvent, on entend il y a un vrai potentiel ou un beau potentiel.
Et dans la vie, c'est pareil.
Eh oui, exactement.
Et dans la vie, c'est pareil. Quelles sont un peu vos admirations, Jean-Pierre Montal ? Quels sont les écrivains que vous admirez ? Comment se présente votre bibliothèque ?
Alors,
on a parlé un peu de votre roman, votre lieu d'écriture, comment se présente-t-il ?
Alors moi déjà, bon, je suis l'anti-routine de l'écrivain, l'anti-habitude. J'écris dès que je peux écrire et j'écris n'importe où. Voilà.
Sur des carnets, sur ordinateur.
Sur ordinateur, voilà. Et si j'ai 10 minutes, eh bien j'écris pendant 10 minutes. Et puis si un jour je me suis isolé 3 jours, eh bien je peux écrire 3 jours. Voilà.
Plusieurs livres en même temps, un seul livre en même temps ?
Généralement un seul en même temps, mais parfois j'en débute deux et il y en a un qui gagne. Voilà. Quand je ne sais pas comment choisir, il y en a un qui s'impose. Voilà. Je fais deux débuts et puis il y en a un qui y a une histoire qui m'emporte plus.
C'est la force de l'écriture qui vous emporte ou la première phrase ?
C'est souvent les personnages.
C'est les personnages.
Oui, c'est les personnages. Et ensuite, mes admirations. Alors moi, j'ai une admiration, plus qu'une admiration, je ne sais pas comment dire, presque un compagnonnage avec les grands moralistes français. Voilà, c'est pour ça que je cite La Rochefoucauld, Chamfort. Voilà, ça c'est une lecture dont je ne me lasse jamais. Et ensuite, j'ai une obsession pour le 19e siècle français. Essentiellement, russe et anglais. Donc là, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais c'est vraiment obsessionnel. Donc Stendhal, Flaubert, qui voilà beaucoup plus que Balzac. Voilà, c'est un Dal Flaubert, pour moi c'est vraiment un duo, et pour en faire une trinité, mais que je ne pourrais pas limiter à trois, donc ça ne sert à rien. Donc Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Tchekhov, là je pense que, bon, pour moi c'est ce que je vise en permanence. Mais il se trouve qu'il y a d'autres écrivains qui m'ont complètement influencé, et puis même plus que ça, qui m'ont fait penser autrement, qui sont Joseph Roth, voilà, qui est un auteur que j'admire énormément, l'auteur autrichien. La marche de Radetzky, par exemple, est un roman que je ne cesse de relire, voilà, que je trouve absolument exceptionnel. Tout me plaît, et puis c'est exactement le passage du temps, les générations, enfin, c'est le genre de projet que j'aimerais... Enfin, en tout cas, ça m'influence énormément. Isaac Singer a été pour moi une grande révélation. Et puis Philip Roth à une époque, beaucoup moins maintenant, mais ça a joué, ainsi que Saul Bellow, qui est cette scène, on va dire, juive américaine, qui m'a beaucoup marqué dans sa façon très brutale d'exposer des sentiments très personnels. Voilà, j'ai trouvé ça très très prenant. Et après, j'ai été assez marqué, je le dis parce que actuellement, quand on le dit, les gens disent « Oh, ça va, c'est bon, on l'entend tout le temps ». Non, moi, j'ai été assez marqué par ma découverte de Patrick Modiano.
Oui, on pense.
Voilà, et je considère encore que c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'assez unique. Et sinon, j'ai un énième maître, parce que là, ça fait beaucoup, mais je suis un lecteur compulsif de Simenon.
Ah ben, je comprends. Voilà. Donc, je comprends. Modiano et Simenon, c'est pas mal.
Oui, voilà. Donc, si bon, voilà. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup certains écrivains... j'aime beaucoup lire. Vous parliez de Michel Houellebecq. J'ai beaucoup lu Michel Houellebecq. J'ai beaucoup lu une certaine période de Benoît Dutertre. Je pense qu'un des plus grands stylistes d'aujourd'hui, qui est souvent pas considéré comme un styliste, et en tout cas à mon avis pas à son véritable niveau, c'est Simon Liberati. Dutertre, je l'ai dit. Une autre école un peu plus contemporaine qui rassemble des gens comme Olivier Molin, Thomas Morales. Bon, ça, c'est des gens que je lis, mais mon obsession, dont je trouve vraiment un regard chez eux, quelque chose de très particulier.
Est-ce que la notion d'univers romanesque, vous en avez un, Jean-Pierre Montal, quand on parle de Simenon ou de Modiano, c'est l'univers romanesque?
Oui. Oui, tout à fait.
Et création de personnages, parce que maintenant on dit ils font un roman, c'est de l'autofiction, ils ne créent pas de personnages.
Alors voilà, pour moi c'est essentiel de créer un personnage, de créer des personnages, pardon. Ouais. Je veux dire, si je le disais un peu vulgairement, c'est là qu'est le boulot, je trouve. Il faut créer les personnages. Beaucoup de gens parlent de l'intrigue, beaucoup de gens parlent de la structure. Pour moi, tout ce qui est intrigue et structure ne marchera que si les personnages sont bons, crédibles, contrastés, bizarres, déroutants.
Enfin, surprenant,
si on y adhère.
Imprévisible, voilà. Tout en étant un peu prévisible.
Voilà, mais... exactement, voilà, la vie, quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le livre, l'objet-livre, votre premier livre, vous en souvenez, ce que vous avez lu?
Mon premier livre, j'ai lu très tard. Alors,
Vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais, exactement. Alors, moi, j'ai commencé à lire passionnément dans la presse musicale, je tiens à le dire, parce qu'à un moment, un magazine comme Rock et Folk avait des très grandes plumes, comme Yves Adrien, qui est un écrivain exceptionnel, qui a écrit des textes exceptionnels, Philippe Garnier, qui écrivait de très belles choses, Philippe Manœuvre, qui a souvent été un peu, comme on le disait tout à l'heure, mangé par sa réputation, mais je peux vous dire que les articles des années 70 avaient un rythme qu'à mon avis, beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui devraient regarder de plus près. Hein. Puis, c'est un grand lecteur de Stendhal, et ce n'est pas pour rien que ça se sent parfois dans le rythme. Et après, non, moi, le grand choc à l'origine, si vous voulez, quand je me suis dit « Ah, c'est donc ça, cette littérature dont tout le monde parle et qui peut être si importante, c'est l'éducation sentimentale.
Ouais. »
Voilà, là, ça, c'est vrai que... voilà, j'ai ça dans le viseur en permanence. Et puis, je me souviens encore de ma première lecture et le moment où je l'ai fermé, je l'ai posé et je me suis dit, ah oui, donc ce type peut parler de sentiments que j'éprouve. Ce type de 19e siècle peut parler exactement de sentiments que j'éprouve. D'ailleurs, la fin de l'éducation sentimentale, l'enchaînement des 40-50 dernières pages, voilà, pour moi, c'est un absolu. C'est vraiment quelque chose à atteindre un jour, si possible, à
oui,
viser.
Bon. Vos projets, Jean-Pierre Montal, est-ce que vous avez un manuscrit sous le coude encore? Ça sera plutôt dans le roman, où vous pouvez alterner roman et essai. Ah, il manque l'ensemble de...
Oui,
de mes... Voilà, c'est la page que
Mais j'ai écrit très peu d'essais. J'ai écrit un portrait biographique de Maurice René,
voilà,
qui est un acteur que j'admire beaucoup. Et puis j'ai écrit un livre que j'aime beaucoup avec un ami, Jean-Christophe Napias. On a écrit un guide des romans courts, des romans de moins de 120 pages.
Formidable.
Parce qu'on n'entendait que des gens nous dire « Ah là, je lirais bien, mais j'ai plus le temps. » Alors, on en avait un peu marre, et voilà. Donc, non, j'ai un nouveau sujet de roman en cours, voilà.
Bon, on a hâte déjà de lire. Merci à vous, Jean-Pierre
Merci
Montal.
À vous beaucoup.
Pour
Merci.
L'heure chamade, c'est vient de paraître chez Séguier, dans la collection, qui a un très beau titre, d'ailleurs, L'Indéfini. Donc, comme la vie est un... On voit de se définir ou de s'indéfinir. Et puis j'en profite pour vous encourager à acheter le nouveau numéro de la quinzaine littéraire, quinzaine lettres, arts et idées, le numéro 12254, avec un dossier sur Pierre Michon. Et puis vous avez aussi un très beau texte sur Colin Lemoine, qui est un jeune écrivain qui mérite, qui n'est pas facile, qui n'est pas facile du tout. Il y a aussi un entretien avec Patrick Clou. Enfin bref, c'est il faut soutenir les revues littéraires, aller en kiosque, en quinzaine, lettres, arts et idées. Vous avez un. Et aussi, je crois qu'il y a quelque chose sur François-Henri Désérable. Donc, il y a une chronique qui règne de François-Henri Désérable. C'est dirigé par Patricia Depasse et voilà, ça vaut le coup. Tant qu'il y aura des revues papier. D'aller en kiosque, de demander, et puis même si ça y est pas, vous commandez. C'est comme ça que la littérature aussi se fait. Vous êtes un lecteur de revues, Jean-Pierre Montal?
Oui, la quinzaine, oui, assez régulièrement. Et puis je traque les vieux numéros de la NRF.
Ça je comprends. Vous êtes un peu bibliophile ou pas du tout?
Non, pas du tout. Alors ça, je n'ai pas du tout le culte de l'objet, mais en revanche, j'aime beaucoup ça, avoir cette diapositive du passé, vous voyez, une revue avec un sommaire de 1962, par exemple.
Oui.
Alors ça, je trouve qu'on a tout de suite une époque qui surgit. Ça, j'aime beaucoup
ça. Tout de suite, là, comme une radiographie de
Exactement.
L'époque. Écoutez l'émission. Vous n'avez pas de site internet encore, non?
Non.
Bon, on peut voir sur le site de votre éditeur vos prochaines rencontres.
Hein, oui, exactement.
Je suis sûre qu'il y en aura. Merci à vous tous. C'était l'émission Bibliomanie qui vous était aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand. Et on a parlé de l'heure chamade de Jean-Pierre Montal. Je suppose, je termine un tout petit peu avant parce que je suppose qu'on va avoir une musique de fin pour cette rencontre autour de Françoise Sagan aussi.
Eh bien, évidemment, parce que Françoise Sagan, l'invité aime les chansons, aime la musique, ça tombe bien. Moi aussi, et j'aime aussi Juliette Gréco, et elle a chanté du Françoise Sagan. Et là, qu'est-ce que je vous ai... Vous, mon cœur, c'est joli comme titre. Alors voilà, c'est sur Radio Libertaire, hein. La radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
Qui m'embrassez, vous, un jour, vous, pourquoi vous me quitterez, mon cœur, car l'amour lasse et vous lassera. Ma vie, toi qui souriais, toi qui m'embrassais, toi un jour, toi pourquoi? l'amour passe, il repassera. Passe, passe et retourne-toi. Mon cœur.
Qui m'appartient pour un air de banjo. Mais jamais je ne donnerai l'Isabelle. Faut la quitter, alors j'en mourrai. S'il faut la quitter, alors j'en crèverai. Et allez, je donnerai bientôt ma vie qui se cavale. Je tirerai mon chapeau quand finira le bal. Alors j'aurai plus rien à fourguer au néant. Et pourtant, faudra bien que le bon Dieu soit content. Car jamais je ne donnerai l'Isabelle. Non, jamais je ne donnerai mon bateau. Il est bien plus beau qu'un corps de pucelle qui nous caravelle par-dessus les flots. Non, jamais je ne donnerai l'Isabelle. J'aime mieux crever que donner mon bateau. J'aime mieux crever que donner mon bateau.
En rang les soldats du bon goût, tenez-vous droit au garde à vous. Le petit doigt en communion sur la culture du pantalon. Je prie, prends sainte terre à genoux, d'être étiqueté comme un bon coup. Tout le monde chante à l'unisson, les uns rock libération. Pour un peu de reconnaissance, je vendrai mon cul à votre science. Être à jamais votre singe. Diversité en ma culture, que ta peau reste brute.
Croquer dans la pomme, dans les usines à regardise, où la culture se consomme comme une petite friandise. Enseignez-moi votre doctrine, pardonnez mon ignorance. Quand vous prêchez, je m'incline devant votre art de la tendance. Dysfonction, lobotomie, pilonner la même chanson. Doubler la posologie, libre arbitre pour l'infection. Rémunéré à la picole, pour l'amour du rock'n'roll. L'indépendance, mon seul honneur, c'est lever tout droit mon majeur.
Fragile, éclatante.
T'es foutu, alors chante.
Attendez de moi ce que je ne suis pas. Aux médias, encensez-moi. Au creux de vos mains, la pluie, le beau temps, le vide permanent. Pour les affaires, l'industrie du chloroforme, l'art de rester confort.
saltimbanque, va-nu-pied, théâtre mal éclairé, circassien dans ta roulotte, conteur aux histoires qui débloquent, danseur narguant la gravité, gratte-papier sous publié, caméraman dopé au flou, funambule un peu trop fou, éclairagiste à l'aveuglette, mangeur de clowns, trouble fête, parolier, bouffeur de rimes, comédien, chasseur de mimes, créateur dont la poussière, on baise avec les enfers.